Vous écoutez Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement, en ma compagnie cette semaine pour faire la revue de presse, revue de l'actualité, Nicolas Mainville et Hugo Lachapelle. Moi, bien sûr, c'est Sofiane Legendre. On enchaîne sur une question assez importante ici à Montréal, le plan d'aménagement, le plan de transport de la ville de Montréal. Vous savez, faire de l'aménagement urbain, c'est bien quand on a une vision, hein, qu'on sait ce qu'on veut faire avec ces belles infrastructures-là. Donc, moi, je suis un peu estomaquée d'apprendre que le plan n'est pas seulement pas prêt, mais qu'on n'a pas de plan de développement des transports présentement à Montréal.
En fait, non, pas pour le moment. On a toutes sortes d'autres choses. On a un plan d'aménagement, un cadre d'aménagement émis par le ministère des Affaires municipales. On a un plan stratégique de développement durable qui est pas mal...
Ouais.
Pas tout à fait au point, mais...
Pas mis en branle.
Ouais.
Il est fait, là. Il a été concocté dans la dernière année. Ouais.
On a un plan d'urbanisme, puis on a plein de beaux projets de transport routier comme la 25, la 30, l'autoroute Notre-Dame et ainsi de suite. Mais donc, finalement, et là j'étais un peu ironique, mais finalement, il y a M. Claude Dauphin, donc le directeur de la STM, entre autres, mais aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs postes, là, monsieur. Claude Dauphin est aussi conseiller à la ville, représentant, en tout cas. Bref, il vient de nous dévoiler les grandes orientations du plan de transport qui va être émis probablement au printemps 2006.
Et puis?
Alors, bien entendu, il veut favoriser le transport en commun, l'usage du vélo et la circulation piétonne dans la planification des infrastructures de transport, ce qui paraît très bien à toute fin pratique. Et par contre, c'est ça, on avait demandé de faire un plan de transport lors du sommet
de Montréal.
Lors du sommet de Montréal en 2002, chose qui a branlé dans le manche.
Mais
si
là,
je peux m'exprimer
ainsi.
Un
plan qui propose, qui va après ça, comme tu le disais tout à l'heure, passer à l'évaluation. Quand il propose justement quand il parle justement du transport en commun, piéton, cycliste, est-ce qu'il met en place des moyens? Est-ce qu'il suggère des moyens?
Il nous dit que ça va être les grandes orientations.
Okay.
On ne connaît pas les détails. Mais dans un plan, on n'aura jamais de grands détails. On va avoir des orientations qui devront après ça être suivies. Est-ce que l'exercice est un petit peu redondant alors que dans le plan d'urbanisme, on a déjà parlé de favoriser le transport en commun, alors que dans le cadre d'aménagement, c'est un peu glissé dans ces termes-là aussi? Il y a une certaine redondance, mais il y a un intérêt à produire ces exercices-là dans le sens où ça devient quand même des bonnes opportunités pour que la population prenne des positions et pour mettre les dossiers sur la table, sans aucun doute.
Je pense qu'une des choses intéressantes, c'est que justement la population a pris position et ça fait plusieurs fois qu'elle le prend. Puis il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière qui nous disait, écoutez, il y a 9 Montréalais sur 10 qui sont pour le développement du transport en commun à Montréal, même si ça l'embête les automobilistes. Et donc, ces conclusions-là de ce sondage-là vont tout à fait dans le sens de ce prévu plan de transport. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que ce plan de transport-là était prévu pour octobre 2005. Vous savez que les élections municipales sont novembre 2005. Et là, l'administration de M. Tremblay, de ne pas vouloir trop perturber l'automobiliste montréalais, se dit, bon, mais écoutez, on va déplacer le tout pour le printemps 2006. Ce qui est évidemment extrêmement décevant, puisque ça faisait suite à une promesse du sommet de Montréal, comme Hugo, tu disais. Moi, je suis extrêmement déçu. Écoutez, on l'attend depuis longtemps, ce plan-là. Et il est d'autant plus important que ce genre de décision soit prise le plus rapidement possible pour qu'on puisse développer et qu'on puisse mettre en place des solutions autres que l'automobile et qu'enfin l'auto-roi arrête de dominer ici.
C'est intéressant aussi dans le sondage auquel tu fais référence, les 9 sur 10, il y a probablement au moins 4 automobilistes là-dedans, là, des 9 personnes sur 10 qui disent « ça dérange pas, même si ça nuit aux automobilistes, il y a un bon système de transport en commun. » Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui répondent au centre-ville en voiture s'il y avait un système qu'ils jugeaient plus efficace.
Mmh. Il y a un autre résultat qui nous dit même qu'il y en a 78% qui sont favorables à l'aménagement de pistes cyclables, même si elles sont susceptibles de contrarier les automobilistes.
Mmh.
Et là, c'est ça qu'on est un peu en train de voir avec le changement de l'échangeur des pins. En fait, on est en train de déconstruire un échangeur, chose qu'on ne voit pas souvent. J'aimerais ça vous le faire remarquer.
Pour situer les gens, l'échangeur des pins, c'est juste à côté du Mont-Royal. On dirait à quel coin? Coin sud?
C'est des points et
coin des pins et parcs.
Ouais. Coin des pins et parcs, qui est présentement un espèce d'échangeur comme une autoroute, en fait. Là.
Ouais.
Donc, avec des ponts, un tunnel, puis c'est assez casse-cou en vélo.
Tout pour éviter d'avoir des feux de circulation. On a bâti des espèces de rampes pour les cyclistes, pour les piétons, mais c'est vraiment pas un endroit agréable. Et là, en le débattissant, on va créer 15 000 m² d'espace vert et on va avoir une intersection intersection très normale avec un feu de circulation comme à plusieurs autres intersections dans la ville de Montréal. Ça va nous permettre de planter sur ces 15 000 mètres carrés, c'est à peu près 2 terrains de football. Pour vous faire une petite idée, on va planter 300 arbres là-dessus. On prévoit un lien cyclable. Étrangement, on ne parle pas trop de la suite de ce lien cyclable-là sur l'avenue du Parc. Et puis moi, j'étais un peu curieux parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous parle de l'idée d'installer un train léger sur l'avenue du Parc. Ouais, et là, on dirait pas qu'ils en parlent
termes. Ça pourrait très bien, ça nuirait pas, l'un ne nuirait pas à l'autre.
Ben, il faudrait savoir pour le moment quand on va le construire, si on prévoit cet espace-là, et comment on le prévoit, et pas faire du travail qui va être débattu dans 2 ans lorsqu'on déciderait de faire un train léger. C'est peut-être ça un peu la préoccupation que j'ai en ce moment. Mais je pense que c'est beau de voir qu'on fait de la déconstruction. On n'est pas rendu à la décroissance durable, là, comme
non, parce qu'en fait, ça va en rien réduire le trafic au centre-ville de Montréal. C'est pas du tout le but de la chose.
Ça peut encourager les gens à prendre leur vélo, puisque c'est plus facile de passer par là, et ça peut décourager l'automobiliste à aller attendre au coin d'une lumière.
Ben, espérons-le.
Regardez bien la pendule, descendez-vous. Agissez pour les changements climatiques dans votre quotidien. Vous fermez les lumières et baissez le thermostat avant le départ. L'idée s'impose tranquillement en vous.
Préoccupé par les changements climatiques? Faites à part pour le défi d'une tonne. C'est dans l'ensemble de nos petites actions quotidiennes qu'on peut faire la plus grande différence. Consommer moins d'énergie, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
De retour à Delirium environnemental, toujours en première heure, donc toujours en revue de l'actualité, revue de presse en cette belle semaine du 12 avril 2005. Donc, on vous parlait un peu plus tôt du plan d'aménagement des transports, non, du plan de transport pour la ville de Montréal. Hugo, une petite information que tu voulais préciser.
Ben oui, je pense que, écoutez, on a dépeint ici une population qui était très heureuse, qui était très enjouée. qui voulait voir des vélos, du transport en commun, des pistes cyclables. Et tout. Par contre, le même sondage nous dit, le sondage dont on a parlé plus tôt, nous dit qu'il y a 60% des répondants qui s'opposent à une réduction du stationnement de longue durée au centre-ville. Alors, on a des espèces de discours un peu mitigés qui, je pense...
C'est bon, mais pour les autres.
Qui représentent un peu plus, quand on regarde ces chiffres-là, ça nous représente un peu plus la société dans laquelle on vit.
Et ça nous rappelle aussi qu'on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi à des sondages ou dépendant des questions, mais surtout les chiffres qu'on décide de réutiliser. Merci.
Ah, hey, les transports en commun, on en veut.
Précision importante.
Tout
merci
monde est
beaucoup,
pour la
Hugo.
Vertu.
On continue sur l'industrie automobile. On se souvient que les demandes qui ont été faites à l'industrie automobile en regard justement des diminutions des gaz à effet de serre, on en parlait la semaine passée. Vous pouvez aller réécouter l'émission si vous en pouvez plus et ça vous tente trop sur le site internet au www.radiodelirium.net en cliquant sur le mot archive. Mais tout ça pour dire que donc la semaine passée, on parlait de ce plan d'action proposé à l'industrie automobile qui avait été vertement critiqué. Il n'y a pas que du mauvais, semble-t-il.
Il n'y a pas que du mauvais. En fait, ça vient dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, à inspirer nos voisins du Sud avec les décisions qui sont prises ici au Canada.
C'est drôle parce qu'on critique ici en disant c'est pas assez solide, puis après ça, on se console en disant oui, mais au moins, ça donne l'exemple aux vieux bourrus en bas, là.
Mais n'empêche que c'est vrai parce que, écoutez, on parle d'environnement, on parle de changement climatique et tout le tralala. Il n'y a pas de frontières politiques dans cette histoire-là. Donc, on est tous concernés parce que les États-Unis font les décisions qu'ils prennent. D'autant plus que tout l'axe, les grands vents qui nous passent sur le nez proviennent, entre autres, des grands lacs et de toute l'espèce de grosse motte d'industrie qu'il y a par là-bas.
Le corridor Windsor. Nord.
Ben oui, c'est ça. Fait que ce qui est intéressant de voir, c'est la question de l'industrie automobile. Vous savez que la Californie est en grosse négociation pour imposer des règles très strictes à l'industrie automobile. Et puis, ben c'est autour de l'État de Washington, qui est coincé entre le Canada et les États-Unis et la Californie, pardon, d'essayer d'imposer des règles strictes aussi envers les constructeurs automobiles pour les forcer à vendre un certain pourcentage d'automobiles qui émettent moins de gaz à effet de serre. Vous savez qu'ici au Canada, la règle qui a été adoptée la semaine passée, c'est une règle volontaire qui impose une réduction de 5,3 mégatonnes de gaz à effet de serre d'ici à 2010. Ce qui est en fait une grosse joke, mais bon, on rentrera pas dans ce détail-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'ici au Canada, l'ensemble des efforts de l'industrie automobile de réduction de gaz à effet de serre, l'évaluation va se faire sur la base de l'ensemble de la chose auto, OK, au Canada. Tandis que...
Donc, construction, préparation, etc. Pas seulement transport, là, quand ça roule.
Ben, pas seulement juste ça, mais aussi, si les gens arrêtent de conduire leur automobile demain matin, eh bien, l'industrie automobile va avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre.
Quand en fait, c'est pas elle pantoute.
C'est pas elle qui aura fait aucun effort. Ça va être la population qui va avoir moins contribué avec la question transport. Donc, on a mis la responsabilité du transport au complet à l'industrie automobile. Tandis qu'aux États-Unis, c'est au contraire. À chaque année, les producteurs auto doivent respecter un certain quota d'émissions et doivent s'assurer que leurs autos émettent pas trop de gaz à effet de serre.
Ça, c'est aux États-Unis.
Ça, c'est
en Californie.
Et d'après
toi, en Californie. Et ça, donc, c'est plus efficace.
C'est beaucoup plus efficace puisqu'on va rejoindre une diminution d'environ 30% d'ici à 2016 réduction de gaz à effet de serre. Contrairement à ici, environ 20% de façon volontaire. Et puis, on ne sait pas où ces diminutions d'émissions de gaz à effet de serre-là vont se faire. C'est peut-être même juste à cause que l'essence va augmenter ou parce que, par exemple, le gouvernement canadien va dire, écoutez, on vous donne une taxe si vous achetez un char hybride ou quelque chose comme ça ou si vous laissez votre auto à la maison. Donc, l'utilisation de l'automobile va être moins grande et donc l'industrie automobile va gagner là-dedans. Donc, tout ça pour dire que l'État de Washington réfléchit longuement et utilise l'argument de l'entente qui a été faite au Canada pour pouvoir atteindre une certaine entente. Et évidemment, on espère que ça va faire effet boule de neige dans le reste des États.
Que c'est très beau, la Californie. C'est la seule chose qui me venait en tête pendant que tu disais tout ça. Je me disais, c'est tellement beau, la Californie.
C'est surtout beau en période de smog.
Ah, également. Mm-hmm. Mais c'est quand même eux qui ont parti le Flower Power. Qui sait? Au retour, on parle de... On doit s'arrêter. Non, ça, c'est Flower, en tout cas. On doit s'arrêter, mais au retour, on parle de Singapour qui ne cesse de s'agrandir. En tout cas, un projet de développement qui dure depuis 40 ans et qui, selon toi, Hugo, est plutôt problématique. De retour à Delirium environnemental, on parle d'aménagement urbain, en fait, de développement urbain, devrais-je dire plutôt de l'étalement urbain, mais à une extrême qui est assez, pas inimaginable, mais vraiment surprenante. À Singapour, l'île n'est pas assez grande pour les 4 points quelques millions d'habitants, donc ils ont décidé d'agrandir.
Ah ouais, surprenant. Vraiment, là, en fait, Singapour, un petit état dans le sud de l'Asie du Sud-Est, en fait, on parle d'une île de 699 km², quelques 4,2 millions d'habitants qui s'y logent. C'est le troisième pays le plus riche après Hong Kong et le Japon en Asie. Donc, grosse force de production et tout. Et la valeur de l'immobilier dans cette île qui ne cesse de prendre
de l'expansion,
eh bien, augmenté au point où, depuis les années 60, on a commencé à raser tout ce qui était butte de terre pour aller remplir tout ce qui était baie et petits terrains genre marécageux, des mangroves et des dunes sur le bord des plages. Alors on a aplani l'île pour utiliser ce sol-là pour agrandir la superficie de l'île. Agrandir à un tel point qu'un jour, on a fini par utiliser toutes les buttes de terre qu'on avait. Et là, on a commencé à acheter du sable en grande quantité de l'Indonésie et de la Malaisie pour continuer à prendre de l'expansion. Et là, un jour, la Malaisie a commencé à se dire, mais là, attends une minute, là, c'est rendu que la Malaisie est séparée par un détroit. De Singapour, là, est séparé de Singapour par un détroit. Et là, Singapour s'étend et se rapproche de la Malaisie. Ouais, s'étend dans l'eau, carrément. C'est ça, plus d'explications. Vous pouvez imaginer un bord d'océan. Alors, mettons, il y a 5 mètres de profond d'eau. On a commencé à rajouter du sable pour pouvoir submerger ce terrain-là. Maintenant, les endroits où on planifie rajouter du nouveau terrain, on va devoir mettre du sable pour remplir 20 mètres de profondeur d'océan. Ça va coûter cher de sable. À 7 piastres le mètre cube de sable, c'est ridicule.
Non, mais en plus de coûter de l'argent, on s'entend que ça pose des problèmes au niveau des fonds marins, tout l'écosystème.
C'est le point.
S'il restait un écosystème...
Ben, si tu mets du sable dessus, il y en a plus, il y en aura plus jamais. Ça, c'est pas mal clair et on s'entend là-dessus. En plus, on finit par bétonner tous ces murs-là pour retenir le sable. Donc, l'île est complètement, tout ce qui est bord de l'eau de l'île est complètement dénaturalisé. Alors, imagine-toi donc le drame, je voulais vous en faire part.
Ben oui, mais drame intéressant, mais qui soulève aussi la question de l'augmentation démographique, parce que si on est obligé d'agrandir l'île, c'est pas seulement à cause du prix des terrains, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, ça soulève d'autres problèmes. Mais on n'aura pas le temps d'en parler, heureusement, parce que je sens que c'est éthiquement problématique comme sujet. Un autre problème qui était éthiquement problématique et qui l'est toujours, d'après moi, celui des OGM. Par contre, le Vermont vient de poser un geste assez incroyable.
Oui, extrêmement incroyable. Un article intéressant de Louis-Gilles Francard du Devoir ce lundi, en fait, 11 avril, qui nous parle justement du Sénat du Vermont qui vient d'adopter un projet de loi. C'est bien un projet de loi, hein, ça fait pas encore force de loi, mais c'est la première étape a été passée. C'est-à-dire qu'on a adopté un projet de loi qui enlèverait cette espèce de legacy qu'on a imposé en construisant ces OGM.
En fait, l'exemple qu'on donne, c'est l'affaire Percy Schmeiser, qu'on a bien connue ici au Canada.
Tout à fait. Percy Schmeiser, vous rappelez de ce cas, un agriculteur de la Saskatchewan qui s'est retrouvé à être poursuivi par Monsanto, la multinationale, puisqu'il s'est retrouvé avec des plants transgéniques sur son terrain. Lui qui n'avait pas payé les droits pour avoir ça. Eh bien, l'État du Vermont est en train de négocier avec ce projet de loi-là pour enlever toute la responsabilité de l'agriculteur face à ces multinationales et encore plus pour donner la responsabilité aux multinationales de tout problème, dommage ou inconvénient que la culture de semences génétiquement modifiées pourrait causer à l'État du Vermont comme tel, à court et à long terme. Mm. Donc, évidemment, c'est de renverser la vapeur, de faire en sorte que pour que la compagnie veuille vraiment commercialiser son produit, elle doit s'assurer que son produit une innocuité, c'est ça le
terme? Oui, sauf qu'en même temps, ça marche pas parce que l'histoire de Percy Schmeiser, là, c'est que ça se répand dans le vent et ça se pollinise toute seule, cela, là.
Oui, c'est exactement ça. Donc, la compagnie qui produit cette semence-là
est responsable
de cette propagation-là.
Donc, il ne pourrait pas poursuivre un agriculteur parce que ça serait mis à pousser sur sa terre.
Exactement. Donc, c'est la première étape légale a été passée pour justement déresponsabiliser l'agriculteur. C'est effectivement extrêmement positif, point de vue lutte contre les OGM. Mais surtout lutte pour les droits des agriculteurs.
Je comprends, non.
La première chose qui a été inventée sur la planète, est-ce que c'est une semence traditionnelle ou une semence OGM?
Bonjour! Autrement, il y avait quelque chose aussi qui me semblait intéressant sur la question de l'étiquetage. Pas du tout que je crois que l'étiquetage est une quelconque solution à la problématique des OGM. Loin de moi cette idée simpliste. Par contre, il semble que suite à ce projet de loi-là, certaines étiquettes ont déjà été préparées pour dire justement ceci ne doit pas être utilisé au Vermont.
Ben, exactement.
Donc, on est capable de faire l'étiquetage des fois.
Ben, on est capable, mais en fait, c'est une réaction de l'industrie pour faire peur au Vermont. pour dire, écoutez, si vous prenez ce projet de loi-là, ben, on viendra plus planter chez vous, puis vous allez faire banqueroute.
Mais c'est aussi pour s'en prémunir. C'est pour dire aux agriculteurs du Vermont, c'est pour dire, c'était sur l'étiquette, donc les gens auraient dû savoir. Donc, nous, on n'est pas responsables parce qu'ils n'ont pas suivi le mode d'emploi qui dit ne pas planter au Vermont.
Mais la réaction du sénateur Campbell, qui est l'espèce de tête en arrière de tout ce projet de loi-là, il dit, écoutez, c'est pas interdit de cultiver des OGM chez nous. Faites juste nous prouver qu'ils ne sont pas dommageables pour notre environnement et pour notre santé.
Non, il ne demande même pas ça. Il dit, vous pouvez planter des OGM.
Selon la loi, c'est si votre produit vient faire entrave à notre sécurité, là, on va pouvoir vous poursuivre et là, vous n'allez pas respecter. Tandis que si là, sont cultivés normalement au Vermont, c'est pas un problème. C'est ça sa réponse. C'est en fait, on veut pas faire peur à l'industrie des OGM de venir planter ici, mais faites juste nous prouver que vos produits sont bons. Et évidemment, en ce moment, on peut pas.
On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un dossier à suivre, surtout que, comme on le disait, ils ouvrent une brèche dans un domaine réglementaire qui est en friche, en fait, celui des OGM. Merci beaucoup, Nicolas Mainville, de nous avoir parlé de tout ça. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, vraiment, l'article de Louis-Gilles Francoeur était tout à fait intéressant. C'était lundi, le 11 avril, dans Le Devoir. Mais bien sûr, ce sera sur notre site, à nous, au www.radiodelirium.net. C'est déjà ce qui va compléter la revue de presse, mais juste avant de vraiment y mettre fin, on se fait les petites vite en bref cette semaine.
Tu sais ce que je fais aux employés qui ne ferment pas les lumières avant de partir?
Oh, pas ça, Don Corleone, pas ça!
Tu sais que ma famille n'aime pas qu'on émette des gaz à effet de serre.
Je ferai n'importe quoi!
Écoute, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne peux refuser. Tu vas changer toutes les ampoules de l'édifice pour des ampoules éco-énergétiques.
Préoccupé par les changements climatiques? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Avec l'installation de minuteries et de détecteurs de mouvement, on peut réduire la consommation d'énergie de l'éclairage extérieur de près de moitié. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net. Parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
De retour à Delirium environnemental, c'est déjà la fin de la revue de presse, revue de l'actualité. Donc, en bref, cette semaine, pêle-mêle, messieurs, lancez-vous.
Ben, je me lance sur le dossier des OGM encore. J'en avais une petite à passer. Vous vous rappelez du maïs BT10 produit par la firme Syngenta. Ce BT10 qui est illégal et non cultivable officiellement contre la loi, eh bien, s'est retrouvé cultivé aux États-Unis et au Canada et au Québec malgré l'interdiction. Et puis, ben, la firme Syngenta s'est vue attribuer une amende de 460 000 baudoulards américains pour justement la production dans les 4 dernières années et la distribution de ces graines illégales un peu partout sur le marché dans l'environnement. Et puis en ce moment au Canada, ben, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui évalue le cas. Mais il faut rappeler qu'il y a 35 000 acres contaminés au BT qui ont été identifiés aux États-Unis contre 86 seulement de ce maïs qui ont été découverts au Canada. On suivra pour vous le dossier.
Yo! Dans la ligne de des OGM, il y a Monsanto, le monde vu selon Monsanto. Imaginez-vous donc que les recettes dans ce deuxième quart d'année ont doublé chez Monsanto. Eh bien, pourquoi? Ben, parce qu'on a commencé à vendre notre maïs un peu plus cher et parce qu'on a une part de plus en plus grande du marché. Au même moment, en Inde, Monsanto vient de rendre publique une étude qui nous dit que le coton hybride est 58% plus efficace que le coton normal. Une étude subventionnée par Monsanto lui-même.
Moi, je pense que c'est le moment d'annoncer que cette fin de semaine, la fin de semaine du 15 avril au dimanche 17 avril à Montréal, aura lieu la journée, en fait, les deux journées mondiales des luttes paysannes pour faire face justement à l'industrie agroalimentaire qui affame la paysannerie, entre autres, et pour réfléchir autrement à l'agriculture. Je vous le dis tout de suite, ça va se passer au métro Jean Talon et également sur la rue de l'Église pour avoir toutes les informations. Vous pouvez voir Alter Réseau ou notre site Internet, bien entendu.
Et plus www.radiodelirium.net. Écoutez, le Japon, vous connaissez ce pays qui est toujours à l'entrave des règles, point de vue pêche des baleines. Vous connaissez ce dossier, les baleines étant, entre autres, certaines espèces en voie de disparition, et le Japon s'obstine toujours à vouloir continuer à les pêcher. Eh bien, ils sont en train de vouloir doubler leur quota en lançant un nouveau plan, scientifique, parce que vous savez que depuis, je pense, 1987, c'est illégal de pêcher la baleine. Eh bien, on peut le faire seulement pour des études scientifiques. Alors, le Japon utilise la rhétorique de « nous, on fait des recherches scientifiques », et puis après ça, ben, on tue les baleines, et puis on se retrouve à les revendre sur le marché. Eh bien, ce plan audacieux viserait à doubler non seulement les prises, mais aussi, on donne comme explication, c'est juste pour qu'on comprenne mieux l'écosystème d'Antarctique. C'est ça la raison officielle.
N'importe quoi. Il y en a qui va falloir qu'ils ramassent, hein, je m'excuse pour ces questions-là de biodiversité, de conservation, de la faune, là, vraiment, là, Japon et autres.
Un blâme, Japon.
Là, rien de beau, beau, beau.
Grosse étude de la société English Nature, commanditée par le gouvernement britannique et la Société royale pour la protection des oiseaux. On a regardé 76 études d'exploitation agricole aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Nouvelle-Zélande. Et on a comparé les exploitations agricoles conventionnelles et biologiques. Eh bien, vous pouvez vous imaginer les résultats. L'agriculture biologique protège la biodiversité, économise énergie, maintient la santé des sols. On trouve 3 fois plus de vers de terre, 2 fois plus d'insectes, 40% de champignons de plus sur les racines des plantes et ainsi de suite. Ça va beaucoup mieux pour la faune et la flore dans les productions ou en marge des productions biologiques.
Moi, c'est drôle, hein, mais il me semble qu'on n'aurait même pas eu besoin de faire une étude pour se dire ça. Ça va comme de soi si on n'utilise pas de produits chimiques qui tuent les bébites puis qui tuent la qualité des sols.
C'est un bon moment pour planter le clou.
Ouais, exactement. Remettons-en. Bravo.
Planter les clous. Écoutez, dans la saga du plan national de lutte contre les changements climatiques, on a appris de scoop qu'on allait augmenter notre quota de réduction de gaz à effet de serre. Vous savez que l'objectif initial était de 240 millions de tonnes, donc 240 tonnes. Eh bien, on le passe à 270 mégatonnes, non seulement parce que les coûts des combustibles augmentent et qu'on voit qu'on va être capable d'atteindre cet objectif-là, mais surtout parce que depuis 1990, l'année de référence, on a augmenté de 22% nos émissions au Canada de gaz à effet de serre, évidemment.
Imaginez-vous donc que le Japon n'a pas que des choses mauvaises à nous apporter. En fait, à la ville de Tokyo, il y a une firme d'investissement qui s'appelle Ecoland Fund qui ont décidé de mettre sur pied... Non, une firme d'investissement qui s'appelle Green Earth qui ont mis sur pied le fonds Ecoland qui va acheter des terrains contaminés dans les villes et les décontaminer pour après les vendre pour de l'usage commercial ou résidentiel. Donc, on parle de quelque 13% des terrains à Tokyo, dans la ville même, qui sont contaminés. Ça fait beaucoup, imaginez-vous, là, 13%.
C'est parce qu'ils ont créé un fonds qui peuvent se permettre ça, parce qu'autrement, un investisseur serait pas intéressé à payer la décontamination.
Justement.
C'est cher.
C'est le temps qu'on se mette à faire des choses comme ça. Je voulais le souligner ici, parce qu'on a beaucoup de terrains contaminés ici à Montréal qui traînent depuis longtemps. Il faut s'en occuper.
Oui, la semaine dernière, on parlait du technopark. Nous autres, si on décontamine pas, on met des petites bouées de contournement pour être sûr que ça ne s'étale pas dans l'environnement. Belle idée. Hey, c'est déjà la fin de la revue de presse, revue de l'actualité à Delirium Environnemental. Je vous rappelle que pour aller lire tous les articles desquels on vous a parlé, vous pouvez vous rendre au www.radiodelirium.net.